Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Alors, Monnaie Libre spécial hein, aujourd'hui, puisqu'on va recevoir un nouvel invité, c'est Mathieu Bise. Salut Mathieu.
Bonjour à toi Stéphane et bonjour à tous les auditeurs.
Alors Mathieu, tu nous viens donc de Toulouse. Alors j'ai voulu faire une émission avec toi parce que tu as un parcours tout à fait intéressant en t'intéressant à la monnaie. Hein, donc tu es actif hein, sur le thème de la monnaie. Et tu t'intéresses au sujet depuis longtemps en fait. Alors depuis combien de temps tu as commencé à t'intéresser aux problèmes socio-économiques
hein? Alors c'est bien précis, je me suis intéressé aux problèmes socio-économiques à partir de novembre 2005.
Ah oui, ça date. Hein.
Ça date. Alors en fait, je vais d'abord parler de pourquoi ce novembre 2005. Bon, d'abord, je suis né au Mirail, dans un quartier populaire, dans une petite maison, enfin une maison en bas d'immeuble, de parents, donc d'une mère psychologue et d'un père directeur de recherche à l'aérospatiale. Mmh. Et comme ma mère était psychologue dans le quartier, ce nouveau quartier populaire, donc ils ont choisi d'acheter une maison tout près de ce quartier, donc en bas d'immeuble. Et donc, voilà, donc j'ai grandi pendant, jusqu'en novembre 2005, j'ai grandi dans le quartier, j'ai fait mes études et j'ai exercé dans ce quartier le métier de kinésithérapeute. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je gagnais bien ma vie, j'avais beaucoup de patients, j'avais même embauché deux salariés, enfin tout allait bien, je faisais que travailler, hein, et donc j'avais beaucoup de monnaie, mais pas de temps libre. Mais je voyais autour de moi mes collègues, mes compatriotes qui sont nés comme moi dans le quartier, mais qui eux, au fur et à mesure du temps, souffraient de d'assèchement monétaire. Alors que pour moi, pour mon cas, qui était né pourtant dans les mêmes conditions, on avait grandi dans la même crèche, j'ai appris à marcher à côté d'eux en même temps qu'eux. Et bien, pour moi, il n'y avait pas d'assèchement monétaire, au contraire, il y avait un enrichissement, un développement socio-économique, vraiment naturel, simple, enfin, sans embûches. Et alors, donc je voyais bien qu'autour de moi, il y avait de plus en plus de problèmes. Et puis, ce qui s'est passé en novembre 2005, il y a eu donc des émeutes. Des grosses émeutes autour de mon cabinet, enfin dans mon quartier.
Ah, les fameuses émeutes de Toulouse, donc, c'est ça?
Voilà, les émeutes, donc, enfin de Toulouse, non, il y avait déjà eu des émeutes en décembre 98, à la suite d'un jeune que je connaissais qui s'est fait tuer une balle dans le dos, à bout portant, par des policiers, et d'ailleurs, les policiers n'ont jamais été inquiétés de cet acte quand même assez grave. Donc déjà, là, il y avait une émeute, mais qu'à Toulouse, pendant 2 mois, hein. Et en novembre 2005, là, ça s'est généralisé pour le même événement, hein, donc à Paris. C'était Moussa et puis je sais plus, deux jeunes qui ont brûlé en essayant d'échapper à des contrôles de papier. Et donc ça a créé des émeutes partout en France, dans tous les quartiers populaires, et puis un peu partout en Europe aussi. Hein. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que mon quartier a été sous... interdit, enfin, comment on appelle ça, c'était pas arrivé depuis 1962, je crois, comment on appelle ça, l'État a instauré un couvre-feu.
Couvre-feu, oui.
Donc je ne pouvais plus exercer mon activité professionnelle, puisque je travaille beaucoup le soir et que je ne pouvais plus me déplacer chez mes patients. Donc là, je me suis mis à réfléchir à pourquoi tout ça, pourquoi des inégalités, pourquoi des émeutes, pourquoi ces crises. Et alors, je me suis penché donc sur l'aspect démocratique. Et donc, j'ai commencé à moins travailler et à me déplacer dans toutes les réunions, politiques, démocratiques, où la notion de démocratie était développée. Et donc, depuis jusqu'à aujourd'hui, je vais à tous les débats possibles. Bon, du coup, j'ai rencontré tous les grands, François Hollande, Azouz Begag, enfin, plein de ministres, plein de conseil régional, conseil général, enfin, tous les politiciens. Vraiment, tous ceux qui viennent au Mirail, je l'ai, vu que c'est un quartier important, Je les ai côtoyés, je les ai écoutés, je leur ai même parlé. Et au fur et à mesure donc de prise de conscience et du développement démocratique, je me suis rendu compte que nous n'étions pas en démocratie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ma parole n'était pas reconnue à égalité. Il n'y avait pas de symétrie. C'est-à-dire que la parole d'un élu était toujours reconnue, alors que la mienne, non. Et pourtant, j'avais une expertise bien plus aiguisée. Même eux le disaient, hein, que j'étais pertinent. Même François Hollande l'a confirmé. Et pourtant, je voyais que ça ne changeait rien. Et donc, je me suis penché, du coup, à l'aspect économique. Puisque démocratiquement, je voyais qu'il n'y avait pas de possibilité de changer ou d'être reconnu. Je me suis demandé, mais d'où vient donc cette asymétrie ? Pourquoi démocratiquement, un citoyen ne peut pas être entendu, être reconnu à égalité des autres ? Et c'est là que je me suis penché donc sur le revenu de base. En fait, il y a un petit collectif dont Carole Fabre faisait partie, qui est venu faire un débat dans mon quartier sur le revenu de base.
En quelle année ça alors donc
Alors ça c'était il y a 4 ans.
Ouais, d'accord. Donc par rapport à 2005, c'est quand même, on est donc quand même là en 2011, donc on est 6 ans plus tard, hein, c'est ça?
Voilà, donc j'ai fait 6 années de débat avec des politiciens. Hein. J'étais pas du tout branché économie. Je voyais bien que l'économie empêcher l'écologie, parce que bon, moi depuis l'âge de 18 ans, je vote écolo, enfin j'élis, parce qu'on vote pas, on élit en fait. J'ai toujours élu des écologistes, et donc j'ai bien vu que l'économie empêchait le type d'économie que je n'avais pas encore discerné, empêchait l'écologie. Mmh. Et donc à travers le revenu de base, j'ai trouvé la solution, enfin de suite j'ai remarqué la solution à l'inégalité économique.
Oui, tu as vu là déjà un principe, disons, de symétrie économique par le revenu de base qui répondait en partie à ce que tu avais constaté en termes d'écart élu-peuple sur les domaines politiques, en fait.
Voilà, je me suis aperçu que le revenu de base pouvait, en fait, moi je le voyais en tant que charité. Je me disais, tiens, si on donne un revenu, une quantité de monnaie à chacun, il n'y aura pas de misère, et donc ça permettrait justement qu'il n'y ait plus d'émeutes et que les gens puissent vivre en harmonie, enfin en tout cas en fraternité.
En tout cas en meilleure.
En meilleure, voilà.
En meilleure harmonie, parce que l'harmonie parfaite, ça c'est un peu délicat à définir. Hein.
Voilà, et puis je me suis vite rendu compte que ça ne changeait pas le point de vue écologique. Qu'un versement d'un revenu de base pour tous, par financement, parce que c'était ça par quoi j'ai commencé, hein, ne convenait pas, ne permettait pas de régler le problème de la croissance économique.
Ou alors ça c'est venu peut-être un peu
après,
parce que quand tu as vu cette, sans aller trop vite, puisqu'on a le temps, il nous reste encore 50 minutes, enfin un peu moins, 40 minutes maintenant, mais donc à ce moment-là, donc tu découvres le revenu de base, et qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que jusqu'ici, d'après ce que tu me racontes, bon, tu as surtout participé à des réunions publiques, hein, en général. Et bon, tu tombes sur une réunion publique aussi, mais qui parle d'un sujet un peu différent, qui est avec le revenu de base. Alors, l'association vient d'être...
est en train de se créer. C'est exactement ça. L'association, le MFRB, le Mouvement Français pour une Base, venait juste de se créer 2 mois avant.
Voilà, qui est une initiative de Stanislas Jourdain, il faut le rappeler. Hein. C'est Stanislas qui au départ est le moteur de cette association, avec Marc de Basquiat, qui aussi a fait une thèse sur le sujet, et qui d'ailleurs, tous les deux, sont venus dans Monnaie Libre, dans les premières émissions. Si vous regardez dans l'historique, vous pourrez retrouver ces deux acteurs de cette association française du revenu de base, que sont donc Stanislas Jourdain et Marc de Basquiat. Alors, donc, et là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parce que là, tu vas t'engager, en fait, auprès de ce moment-là.
Ah, exactement. Moi, je m'engage à ce moment-là, ça a été le début de mon engagement dans la notion dans le concept de revenu de base. C'est surtout, c'est Carole Fabre, hein, pour moi, qui est la personne qui m'a vraiment expliquer, initier à tous les à décortiquer justement sur une base quel est-il, quels sont-ils en fait, et elle me parle déjà à ce moment-là donc du revenu de base par financement, mais aussi de celui par création monétaire.
Elle parle
et alors
des...
là, ouais. Moi je suis complètement mignard à ce niveau-là, et donc moi là je ne fais pas de dissonance cognitive, c'est-à-dire que je lui dis ah bon, mais qu'est-ce que c'est ça, et elle me dit tu verras, petit à petit tu vas t'y mettre, je peux pas trop te l'expliquer, mais informe-toi, regarde ce que fait la TRM, ce que dit ce qu'écrit Stéphane Laborde. Et donc voilà, petit à petit je m'y penche, donc créationmonétaire.info.
Alors je t'arrête juste une seconde, voilà. Tu as parlé d'un terme qu'on va essayer de préciser parce qu'il n'est pas évident,
oui.
Hein. Tu as parlé de dissonance cognitive, qu'est-ce que tu entends par là?
Alors dissonance cognitive c'est un... alors comment j'en ai... Alors ma mère est psychologue, hein, assez connue d'ailleurs. Donc j'ai toujours une approche à la fois scientifique par mon père, un peu mathématique, hein, très rationnelle, et aussi de l'ordre, une approche cognitive, hein, des comportements humains par le biais de ma mère. Et alors, depuis quelque temps, je fais des réunions chez moi vis-à-vis de la monnaie, et il s'avère qu'il y a le directeur de recherche du CNRS Toulouse sur le cognitif, hein, sur le cerveau, Simon Thorpe, pour ne pas le citer, qui lui-même a compris la monnaie dette et qui donc me dit que par rapport à toute on va dire toute explication de la monnaie dette et de sa solution qui est la monnaie libre, eh bien beaucoup de gens qui ont un grand bagage idéologique, hein, eh bien en fait opèrent souvent, pas tous, hein, mais souvent une dissonance cognitive, c'est-à-dire que lorsque l'on leur parle de nouvelles réalités, eh bien, comme ils ne les connaissent pas, ces réalités, elles ne sont pas compatibles avec celles, les fausses réalités, on va dire, dogmatiques qu'ils se sont octroyées avec le temps, hein, à travers justement ce bagage idéologique. Et donc, de réaliser ces nouvelles connaissances, ça leur enlève, on va dire, leur socle, leur base intellectuelle de référence.
Mmh.
Alors, et donc, voilà, la dissonance cognitive s'opère, moi j'ai remarqué, proportionnellement, au poids du bagage idéologique que les gens se sont construits.
Mmh.
Et donc j'ai remarqué aussi, donc j'ai dans ma famille surtout, hein, j'ai une grande famille avec des gens très importants, président de la chambre de commerce et d'industrie, enfin de... et alors et je me suis aperçu que les dissonances cognitives étaient moins fortes chez les femmes, en tout cas, ou en tout cas les individus qui ont moins de bagage idéologique, qui sont un petit peu plus dans le doute, dans la non-connaissance. Alors que la dissonance cognitive est encore plus forte, est beaucoup plus forte chez dans ma famille, chez les individus qui ont beaucoup de responsabilités sociopolitiques et intellectuelles.
Mmh.
Voilà, donc je le vois là sur Facebook beaucoup, même dans mes conférences, je vois bien que ceux qui sont réfractaires à ces nouvelles, à accepter ces nouvelles connaissances, sont ceux souvent qui ont accès aux tribunes politiques, ceux qui ont écrit des livres, ceux qui sortent de l'université, qui ont un bagage universitaire fort, élevé. Ces gens-là opèrent beaucoup plus facilement une dissonance cognitive, hein, vis-à-vis de la création monétaire que les autres.
Voilà. D'accord. Donc poursuis ton chemin. Alors
donc revenu de base, donc je m'y penche. Je rentre dans le MFRB, je vais directement aux assemblées générales. Je m'implique énormément. J'analyse, moi, j'analyse toujours les propositions, les concepts. Et donc il s'avère qu'à Toulouse, se développe en même temps la première monnaie locale complémentaire de France. C'était en BC à 6 ans. Et donc moi je teste, hein, moi je n'ai pas de préjugés, justement, je perds peu de dissonance cognitive, me semble. Je n'ai pas de préjugés sur des choses, donc moi j'y crois, enfin je l'essaye, hein, je teste cette monnaie locale complémentaire qui naît dans mon quartier par le biais d'un collègue à moi, hein, un communiste élu à Toulouse. Et donc là, je m'aperçois que ces monnaies locales complémentaires ne marchent pas. marche pas. Je teste aussi le système d'échange local, hein, le premier de France aussi, le sel de Cocagne, mmh. a été lui aussi développé par un ami à moi, qui est François Plassard. Et donc voilà, j'expérimente donc les monnaies locales complémentaires, enfin le sol violet, j'expérimente le sel, et je commence à expérimenter, enfin à décortiquer les différents types de revenus de base. Ouais. Et donc là, je vois bien qu'il y a, il y a un problème, que ça ne marche pas, et je vois bien que les problèmes s'accumulent, enfin les inégalités s'accroissent, que vraiment les choses vont mal. Et j'avoue que je comprends pourquoi ça va mal, mais je ne sais pas encore, je n'ai pas compris encore la création monétaire à ce moment-là. Et j'avoue que je vais pas bien à ce moment-là. Je parle vraiment de moi psychologiquement. Je développe une petite dépression, une petite mal-être. C'est une prise de conscience de des problèmes sans trouver la solution. Et donc là, ça dure quelques temps. Pas très longtemps, heureusement pour moi. Heureusement que Carl Fabre était là, par ses connaissances et puis surtout sa capacité à m'accompagner dans la compréhension de la solution. Je sors de ma dépression, de ma déprime. On va appeler ça comme ça. Et depuis, j'ai compris la solution et donc je me sens vraiment beaucoup mieux. Je me sens en plein éveil, en plein épanouissement intellectuel. Et donc je me sens totalement prêt pour essayer de faire passer mon parcours, mes connaissances à travers mon parcours. Mmh. Et donc depuis un an et demi, 2 ans, je développe au maximum possible mes connaissances à travers de mes interventions dans les débats.
Alors attends, parce que là tu as sauté une étape.
Oui.
Donc tu nous parles de cette dépression, tu n'as pas la solution, etc. Puis là oui. tu passes à ce que tu fais depuis 2 ans, mais en fait, donc entre-temps... Oui. Donc tu dis que tu as trouvé, disons tu parles d'éveil, tu as trouvé quelque chose qui correspondait à ta recherche en fait.
Oui. Alors ça a commencé précisément. Alors d'abord je me suis revenu vis-à-vis de la monnaie, vis-à-vis de la TRM, au début je ne comprenais pas.
Oui.
Je ne comprenais pas, mais je voyais bien que c'était un problème de compréhension de ma part, hein, que ça venait pas, je n'ai pas trouvé du tout d'arguments pour démonter cette connaissance, c'est juste que je ne l'avais pas, enfin donc quelque part c'est une petite dissonance, c'est que je n'arrivais pas à l'intégrer.
Mais tu as lu la TRM dans le texte à ce moment-là ou tu avais juste écouté des explications?
Que des explications.
Ah, tu n'avais pas lu la TRM?
Je n'avais pas lu la TRM, non.
Pourquoi alors que tu avais cette difficulté, au moins tu n'es pas allé à la source essayer de voir...
Mais parce que moi c'est tout simple, c'est parce que moi je lis des lectures, on va dire courtes. Ah. J'ai du mal avec les gros bouquins. Mais pourtant, c'est pas un gros bouquin, là. Maintenant, je l'ai lu, la TRM, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà, moi, c'est chacun a ses petites, ses problèmes personnels. Moi, les gros bouquins, j'ai du mal. Ou alors, je les lis en diagonale.
Ouais.
J'avais lu en diagonale la TRM. Et puis, regardé des vidéos, je voyais que ça me parlait. Et puis, comment, la première marche, qui m'a permis d'ouvrir les yeux, c'est un texte, que ce n'est pas Stéphane Laborde qui l'a écrit, c'est Gérard Fouché.
Ouais.
C'est un texte, un PDF libre hein, sur Internet qu'on peut lire, qui s'appelle « Manifeste des économistes déterrés ». Alors pour moi, c'est là que tout commence, en fait, que vraiment, je le lis 3 fois, il fait quoi, 20-30 pages. Donc pour moi, c'est bon, ça fait partie des choses que je peux lire plusieurs fois même. Et donc je lis ce PDF 3 fois dans la nuit, et alors là, ça y est, quoi. Ça, c'est étonnant, je comprends, enfin, je commence à... Voilà, ça y est, ça commence à ce moment-là, et donc voilà. Après, pour moi, ça a été, on va dire, le tremplin pour comprendre la TRM.
Alors à noter, hein, puisque tu as cité Carole Fabre, maintenant Gérard Fouché. Alors voilà. Carole Fabre, elle est aussi présente, bien entendu, sur Monnaie Libre. Il y a plusieurs émissions avec elle. D'ailleurs, la première, je crois bien, est avec elle. Hein, d'ailleurs, première émission Monnaie Libre. Oui. Et Gérard aussi, bien sûr, fait partie, d'ailleurs, des premiers lecteurs de la TRM. Hein, c'est un des premiers avec Olivier Aubert, Yolande Bresson, bien entendu, hein, notre notre économiste favori sur Monnaie Libre, bien entendu, Yolande Bresson, qui est à l'origine de la théorie de la valeur temps, on ne répétera jamais assez, qui, pour faire un aparté court, hein, qui est une théorie que Yolande a développée, qui est très proche dans ses fondements, développement et conclusion de la TRM, bien que les postulats et raisonnements soient quand même différents. Mais on arrive à des conclusions similaires, avec quand même un raisonnement, disons, central qui est commun aux deux théories, c'est qu'on a, sur les deux théories, le paramètre temps qui est bien compris, et le temps humain en particulier, qui est bien compris comme étant une valeur économique. Et c'est ce qui rapproche les deux théories, qui fait qu'elles se parlent assez bien. C'est-à-dire que quand on comprend l'une, finalement, on arrive à comprendre l'autre, même si les développements et les conclusions sont quand même sont différentes dans la forme, mais convergent quand même vers les résultats. Voilà, c'est des théories proches, bien que exprimées différemment et ayant quand même des différences, elles sont assez proches. Voilà. Donc pour dire que, voilà, on a bien entendu ici, toujours encore une fois d'ailleurs même d'ailleurs sur des théories, et comme la TRM aussi, donc tu parlais de Gérard, de Carole, on pourrait parler d'autres personnes qui ont étudié la TRM assez tôt, il y a déjà dès sa sortie, c'est-à-dire en 2010, hein, faut vous rappeler, tu parlais du revenu de base en 2011, la TRM est sortie en 2010.
Olivier Aubert aussi.
Exactement, qui peuvent exprimer la TRM avec des points de vue justement différents selon des points de vue et des expériences personnelles aussi, bien sûr, différentes. Et c'est normal, puisque comme la TRM le dit, tous les points de vue humains sur les valeurs économiques, et la TRM en est une si on veut, sont relatifs. Ça veut dire bien qu'ils s'expriment, comme tu disais tout à l'heure d'ailleurs, parfois sont invisibles par dissonance cognitive, justement, parce qu'ils s'expriment tous, c'est une compréhension qui s'exprime sur un substrat conceptuel qu'on s'est bâti avant. Donc forcément, il y a des différences. Et la TRM pure, si on voulait l'exprimer correctement, il faut l'exprimer quasiment exclusivement en mathématiques. On ne peut pas empêcher, même mathématiquement, de donner quand même des explications plus générales en langage naturel. Il y a même des raisons théoriques à ça. Mais essentiellement, la partie théorique de la TRM doit se résumer à sa partie mathématique d'ailleurs, hein, pour finir, que l'on peut désormais retrouver sur le net, sur la TRM publiée sur Internet, dans l'appendice 2, qui est un résumé mathématique de la TRM. Normalement, un mathématicien ou un physicien qui voudrait étudier la TRM pourrait simplement lire cette partie et devrait pouvoir, on n'est jamais sûr, bien sûr, mais devrait pouvoir la comprendre assez bien, rien qu'avec cette partie-là. Voilà, donc j'ai fini, tu peux reprendre, c'était bien de citer quand même la participation de Carole ou Gérard aussi au podcast Monnaie Libre dans les premiers épisodes pour les auditeurs qui voudraient écouter leurs interventions passées. Mm-hmm. Vas-y, continue.
Donc, vis-à-vis de ça, justement, je vois mon papa, qui est pourtant mathématicien, physicien, qui connaît toutes les étoiles et les planètes du système solaire et au-delà, et bien ne opère une dissonance, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore penché sur la lecture de la TRM. Pourtant, j'arrête pas de lui dire, mais comme voilà. Bon, après, est-ce que c'est parce que ça vient de son fiston et que ça lui est difficile d'apprendre des nouvelles connaissances vis-à-vis de son fils? Je sais pas. En tout cas, ça va venir. Là, pour l'instant, il s'est penché sur le Bitcoin, qu'il ne comprend pas non plus. Bon, je lui ai dit qu'il fallait commencer par la TRM, mais bon, ça c'est un aparté. Donc, moi, j'arrive à la TRM. Je sais pas trop, est-ce que je continue à parler de mon parcours au sein du mouvement français pour le revenu de base?
Ben c'est un peu lié, disons, ce qui est intéressant là, je pense, pour les auditeurs, pour l'émission aussi, c'est ce passage, effectivement, où tu es, tu t'intéresses au revenu de base, tu comprends l'intérêt économico-social de la chose, mais puis tu hésites, finalement, on comprend là, hein, que tu hésites entre deux approches de la question qui sont quand même différentes, mais qu'elles convergent vers une solution qui semble de la même nature. Et tu hésites entre les deux explications. Il y en a une que tu comprends pas bien, mais qui continue à t'attirer, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que bien que tu la comprennes pas, ça continue à susciter ton interrogation.
Oui, mais comment ça se fait que je m'y intéresse vraiment, que je continue à m'intéresser à TRM? Mais je crois que tout simplement, c'est parce que
Quand tu nous dis, Mathieu, tu t'es intéressé donc au texte là de Gérard qui a fait les économistes déterrés. Alors il parle pas de la TRM vraiment dedans, hein,
non,
d'ailleurs.
Non, pas du tout. Il ne fait que
parler des économistes mainstream, c'est-à-dire qu'ils restent enfermés dans une totale ignorance du rôle de la monnaie dans l'économie. Hein. C'est...
Oui, mais justement, il parle aussi des économistes déterrés d'après 1929, qu'ils déterrent, parce qu'ils ont pourtant été élaboré des travaux où ils montrent bien que le problème, il est monétaire. Hein, ces économistes, je sais plus les noms, évidemment, il y en a quatre, et ils ont bien compris que le problème était donc de l'ordre monétaire, et non pas économique dans le sens secondaire à la monnaie. Et donc c'est là où je me plonge dans l'aspect monétaire de l'économie. Donc c'est pour ça, j'avais vraiment besoin de ressentir...
T'avais besoin d'un pont quand même, t'avais besoin on sent que t'as besoin là, finalement, d'une espèce de pont, il te manquait à traverser une espèce de gué là, pour aller vers la direction qui est, regardez du côté de la monnaie, il se passe quelque chose, il y a quelque chose là qu'il faut creuser.
Voilà, j'ai pris conscience que l'économie, c'est comme quand on joue aux cartes, ce sont des échanges de cartes.
Oui, c'est-à-dire que tu as compris.
J'ai pris conscience qu'il y avait une distribution des cartes avant, au préalable, et ça, je ne l'avais jamais conceptualisé.
Oui, alors voilà, alors ça, il faut absolument que j'en parle de ça. Mm-hmm. On est là typiquement sur le problème de la mesure. Alors c'est un problème d'ailleurs qui rejoint d'autres sciences. Hein. Il faut savoir qu'il y a un problème de la mesure en physique aussi. Et on pourrait trouver d'ailleurs des... ça serait trop long là d'en parler, mais on pourrait trouver des parallèles avec celui de la monnaie. Évidemment, quand on mesure des choses, on croit que la mesure va de soi. Alors qu'on mesure en mètres d'ailleurs, qu'on mesure en degrés Celsius, qu'on mesure ce que vous voulez, en énergie, en n'importe quoi, on croit que la mesure va de soi, qu'une fois que la mesure est là, elle est en quelque sorte, le nombre est indiscutable. Alors ceci est faux. Alors on le comprend très bien si on a étudié, qu'on a compris un tant soit peu, la relativité générale d'Einstein. C'est-à-dire qu'en fait, si on a compris la relativité générale d'Einstein, on sait que la structure même de l'espace n'est pas donnée a priori. Or, selon que l'on considère l'espace selon la structure qu'elle a, exemple, une feuille de papier, qu'elle soit plate ou bombée, c'est pas pareil quand on va pouvoir mesurer les objets qui vont bouger dessus. Le fait qu'elle soit plate ou bombée, la feuille de papier ou le tissu, si vous voulez, va influer sur le mouvement de l'objet, alors qu'a priori, c'est le même tissu. Hein. Vous voyez ? Donc, en fait, la structure de l'espace va influer sur ce qui bouge dans l'espace. Or, qui dit espace, dit, justement, mesure. Bon, mais c'est pareil en économie. Quand on mesure des prix... on a tendance à penser, par ignorance, que la mesure des prix va de soi, et qu'a priori, si un prix est connu, on peut le transformer en n'importe quelle autre valeur économique. Par exemple, tant de bananes valent tant d'euros, donc ça vaudra tant de kilos d'or, ou ça vaudra tant de ceci par simple transformation. Eh bien, en fait, non, ça ne marche pas, mais les raisons sont assez profondes, parce qu'en fait, choisir une valeur de référence influe l'ensemble des mesures qu'on va faire sur cette valeur, pour plein de raisons, que je ne vais pas détailler ici, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent un peu de ça, il faudrait approfondir, mais bon, il faudrait trouver le moment et le lieu approprié pour cela. Donc, effectivement, il y a cet oubli que la structure des prix, mais qui est quand même essentielle, puisqu'on ne parle pas d'économie sans faire des rapports de prix, des rapports de coûts, des rapports de bénéfices, rendements, etc. Or, tous, implicitement, font appel à une mesure de ces éléments économiques. Et cette mesure, c'est bien évidemment ce qu'on appelle les prix dans la monnaie. Voilà. Et c'est cette mesure, en fait, qui dépend de la structure même de l'objet. C'est-à-dire, en fait, on arrive à comprendre, effectivement, le saut à faire pour aller se pencher sur la monnaie, quand on a compris que la monnaie elle-même est vraiment un objet. C'est pas que l'ensemble des mesures de prix, les prix n'existent pas sans référence à un objet économique qui existe aussi, qui est une valeur économique, et qui est la monnaie. La monnaie, il y en a un certain nombre de quantités dans l'économie, il y a une certaine aussi densité, ça veut dire qu'il y en a plus ou moins à tel ou tel endroit dans l'économie. Eh bien, cette répartition de la monnaie influe dramatiquement sur la mesure. Et tant qu'on n'a pas compris que la monnaie était aussi un objet économique, qu'on l'ignore parce qu'on ne s'intéresse qu'à la mesure des prix de toutes les autres valeurs hors la monnaie, tant qu'on n'a pas compris la structure qu'implique l'espace économique lié à l'utilisation de la monnaie, tant qu'on n'a pas compris ce point-là, forcément, eh bien, on est dans ce que tu appelais tout à l'heure dissonance cognitive, c'est-à-dire le zappage, l'ignorance, le trou noir qui est de ne pas penser du tout qu'il y a bien un objet derrière la distorsion ou la malléabilité ou les changements de ce qu'on appelle la mesure des prix, la mesure des coûts, la mesure des écarts de richesse, tu parlais d'inégalité, etc. etc. Voilà. Mm-hmm. Donc tu as objectivé, en fait, tu as réussi à objectiver la monnaie, donc quand on l'objective, on en sort déjà. Parce que quand on voit un objet, on n'est plus dedans.
Parfait, c'est un éveil, hein. C'est un éveil de conscience. C'est, j'ai réalisé quelque chose qui existait avant moi, et qui existera aussi après, hein, mais que j'ignorais.
Très bien. Alors Mathieu, si tu veux bien, justement, je crois que c'est un bon moment là, puisqu'on va pouvoir développer à partir de ça, mais on est sur 30 minutes d'émission, et on va faire une pause musicale si tu veux bien. Donc, petite pause musicale et on revient juste après donc, pour parler de cet éveil à ce moment-là sur ta découverte du rôle de la monnaie et on va dérouler la suite. Donc, à tout de suite après cette pause musicale sur Monnaie Libre.
Dream. of steel and stone babies, call them home. Creatures crawling on the ground, beehive, busy buzzing sound, and hills hailing to the queen, empires towering over trees.
Voici donc de retour après cette pause musicale, toujours avec Mathieu Bise. Mathieu, tu es toujours avec nous.
Oui, bien sûr.
Donc tu en étais donc à cet éveil sur la monnaie. Alors si tu peux maintenant nous expliquer comment ça se passe et puis qu'est-ce que tu comprends.
Eh bien, l'éveil sur la monnaie, eh bien, pour moi, là, ce qui est essentiel, c'est d'avoir... Des supports de réflexion, des outils pour pouvoir faire passer cette prise de conscience, cet éveil de conscience. Et c'est là que je tiens à féliciter par rapport au site créationmonétaire.info et ainsi qu'aux travaux de Gérard Fouché qui me permettent vraiment de pouvoir moi-même, à ma façon, avec mes mots, l'expliquer à mon tour. La monnaie, ce que la monnaie et ce que la prise de conscience sur elle justement permet de développer pour on va dire révolutionner, pour changer de paradigme sur les rapports humains et les rapports vis-à-vis de l'environnement.
Alors est-ce que tu pourrais justement là nous expliquer en quoi a consisté cet éveil, alors sans être aussi long que tu peux l'être dans les conférences que tu donnes maintenant, puisque je sais que tu donnes maintenant beaucoup de conférences sur le sujet, donc tu es habitué à en parler. Mais pour les auditeurs, là, en quelques minutes, comment tu essaierais d'accompagner quelqu'un qui commence à comprendre qu'il y a un rôle de la monnaie dans l'économie, et voilà. Ton propre éveil, finalement, tu pourrais le résumer comment ?
Ben, je vais dire le plan de mes conférences, c'est simple. Hein. D'abord, je définis ce que c'est que les chiffres, les nombres monétaires. Que c'est que la monnaie, c'est un outil de mesure des échanges économiques. Et donc je le mets en parallèle avec les autres types d'outils de mesure, qui sont typiquement humains, hein. Les animaux ne mesurent rien. Nous mesurons, nous avons un néocortex, un cortex cérébral frontal, et qui nous permet de mesurer. Donc on utilise bien des instruments de mesure, comme le thermomètre, enfin des chiffres, hein, des nombres de mesurants, thermomètre, le mètre, la balance... Et donc je mets bien en parallèle la monnaie et le thermomètre et ces autres outils. Les gens n'en comprennent bien que c'est un outil complètement inconnu, qui est pourtant un outil qui est utilisé depuis longtemps. Donc je parle donc de définition de la monnaie, de l'historique de la monnaie. Et puis donc on en arrive vite aux conséquences du type de monnaie utilisée. Donc je définis quel est le référentiel de la monnaie, le code d'émission de la monnaie utilisée donc depuis plusieurs milliers d'années. Les gens donc la réalisent que le code de l'émission de la monnaie dette et donc le crédit bancaire est forcément oblige donc à la croissance et donc à la lutte entre les individus, croissance économique, hein, et à la lutte entre les individus. Donc là, je dis aux gens, fais comprendre qu'aux gens que je pourrais faire des conférences de 2, 3, 4 heures, plus, juste pour que nous élaborions ensemble les conséquences pénibles, hein, de l'utilisation de ce type d'outil et de ce type de code, hein, terre, qui est la dette. Et donc je leur dis, bon, les gens veulent, on en marre d'entendre ça, parce que ça crispe, hein, évidemment, ça fait, ben, ça crée la dépression, hein, quand on voit les problèmes qu'engendre une ignorance, ça fait vraiment du mal psychologiquement. Et donc je leur dis, écoutez, si que pensez-vous d'un code, si on établissait ensemble un code monétaire qui ne soit pas indexé, donc une monnaie qui ne soit pas indexée sur la dette, mais sur autre chose, quelque chose de commun, parce que la dette, c'est pas commun. Il y a des gens qui ont accès au crédit et pas d'autres. Et donc, c'est vrai que ça coule de source en définissant qu'est-ce qu'il y a de commun en l'être humain, hein, comme pour définir le thermomètre qui mesure donc les températures, le code du Celsius, c'est 0 degré, 0, l'eau qui gèle, 100 degrés, l'eau qui boue. Le Fahrenheit, je crois que c'est 37, le 0, c'est la température du corps humain. 37 en Celsius. Mmh. Et donc on voit bien que selon le code, on obtient des chiffres différents, mais pour mesurer la même chose. Et donc là, je demande aux gens, qu'est-ce qu'il y a de commun chez tous les individus? Et quand je leur exprime la notion, justement, le nombre commun à tous les individus, qui est donc la moyenne espérance de vie, alors là, ça parle. Et là, ça permet de dérouler, de comprendre, hein, par soi-même, donc ce nouveau type d'outil. Enfin, ce nouveau type, oui, il est nouveau parce que nous le réalisons maintenant, mais il existait avant, en fait. C'est une connaissance que nous n'avions pas encore. Donc, d'une monnaie qui est indexée sur, qui a comme code d'émission, non plus la dette, hein, le crédit bancaire, mais qui a comme code d'émission l'espérance de vie des cellules du corps humain. La moyenne espérance de vie. Et donc, j'arrive à faire assez bien comprendre, à travers un petit peu de maths, hein, la notion de logarithme de la demi-vie sur la demi-vie, hein, de comment émettre ensemble une quantité de nombre monétaire suffisamment tout le long de la vie pour ne pas être en assèchement ni en inflation. Et donc, à travers, là, moi, j'ai besoin d'un paperboard, hein, je fonctionne comme ça. Et je vois que ça fonctionne en faisant des petits... j'ai ma technique, hein, avec mon petit feutre. Et je vois que ça parle. Ça parle, les gens ils comprennent, même s'ils font pas de maths. Bon, c'est vrai que j'écris logarithme, j'écris des termes mathématiques, mais comme je fais le dessin à côté, les gens comprennent.
Oui.
Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne énormément, vraiment. Moi je prends un plaisir énorme à contribuer, je dirais, à l'éveil des consciences. Et à travers, c'est donc le déroulement par le raisonnement, hein, donc de la prise de conscience, donc d'une monnaie indexée sur l'espérance de vie.
D'accord.
Des individus qui l'utilisent.
Alors c'est bien vu, hein, effectivement, et moi je l'ai jamais présenté directement comme ça, j'ai toujours essayé d'après d'expliquer que c'était d'abord l'homme qui était commun, tout simplement, et que dans l'homme, il y avait un facteur essentiel qui était le temps et l'espérance de vie, mais c'est très bien vu parce que de faire comme ça, parce qu'effectivement, c'est souvent la dimension temporelle justement qui échappe, qu'on a du mal à intégrer. Et c'est ce que dit la TRM aussi, le problème c'est qu'on ne voit pas les cycles inclus par l'émission de monnaie arbitraire, parce que ça se passe sur des longues périodes, et quand on réfléchit qu'à 6 mois ou 1 an, ou même à 5 ans, on ne voit pas les effets de ces actes sur longue période, on n'y réfléchit pas et on ne s'y intéresse pas, parce qu'on se dit, après nous, on sera mort, tant pis. Et effectivement, après, bon, mais ça veut dire que les conséquences seront subies par les suivants. Alors, je vais faire quand même un petit bémol sur ce que tu as dit.
Ouais.
Léger, mais important. La monnaie n'est pas que un outil de mesure. Ça, c'est une erreur de raisonnement qui implique d'ailleurs, après, derrière, des erreurs de conclusion sur certains sujets. C'est pas que un outil de mesure. Un petit parallèle rapide. C'est pour faire réfléchir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En physique, notamment en mécanique quantique, on sait que, justement, la mesure influe l'expérience. Donc la mesure ne peut jamais être séparée de l'expérience. Parce que dans l'outil de mesure traditionnel, on a tendance à penser que l'outil de mesure n'influe pas ce qui est mesuré. Par exemple, quand je mesure la température justement avec un thermomètre, on suppose que si je mets le thermomètre dans le frigo, ça n'influe pas la température du frigo. Alors en réalité, c'est faux, parce que le thermomètre a une certaine température, et que si, bien sûr, il diminue, eh bien, ça veut dire qu'il transmet un peu de chaleur au frigo quand même. Tellement faible que ça ne compte pas. Mais justement, la mécanique quantique, c'est le très petit et ça compte. Mais la monnaie, c'est pire que ça, parce que la monnaie, c'est une grosse valeur économique. C'est pas une petite valeur du tout. Donc c'est non seulement c'est pas négligeable, mais c'est même très important. Donc c'est pas qu'un outil de mesure, c'est une valeur économique qui en plus influe la mesure. Mais c'est pas du tout une valeur. En fait, c'est tellement énorme qu'on se demande pourquoi on n'a jamais pensé avant à quel point la monnaie influe la mesure, parce que c'est une valeur économique colossale. C'est-à-dire quand on regarde la hauteur des patrimoines estimés en euros, par exemple, des personnes dans la zone euro ou en France. Je crois qu'en France, on estime à 100 000 euros par personne le patrimoine moyen. Or, la quantité de monnaie par personne, c'est 60 000 euros. C'est-à-dire dans ce patrimoine, il y a 60% de monnaie. Vous voyez à quel point, ici, dans ce cas particulier, alors il y a des distorsions, hein, dans d'autres monnaies, il n'y aurait peut-être pas autant de valeur sur la monnaie. Mais vous voyez à quel point la monnaie peut être importante, en fait, en termes de quantité, de valeur dans l'économie. Donc ça n'est pas qu'un outil de mesure. Attention à ce piège-là, parce qu'on pourrait croire qu'on ne fait que mesurer des écarts de transactions, d'autres choses que la monnaie entre les personnes. Non, c'est faux. C'est faux. On transfère
aussi de là. On influence les comportements à travers le type d'outil.
Oui, l'outil est aussi une valeur économique en l'occurrence ici. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on a là aussi, de la même façon qu'en physique, quand on mesure les distances, aujourd'hui, on le fait par rapport à la vitesse de la lumière. Et la lumière, c'est un objet physique. C'est pas quelque chose qui est hors la physique. Hein, attention à ça. Voilà. Donc la monnaie, c'est une valeur économique malléable, les nombres sont répartis dans l'économie, il y en a plus ici que là, demain il y en aura plus ailleurs que là-bas, etc. Donc c'est quelque chose qui peut bouger, alors évidemment en fonction des échanges, mais pas uniquement. Il y a aussi cette monnaie qui se crée, qui s'est créée, qui se créera en fonction de telle ou telle monnaie, en fonction du code qu'elle a. Et le code n'est pas donné a priori. Parmi tous les codes possibles, il y en a qui ont certaines propriétés, d'autres qui ont d'autres propriétés, donc il n'y a pas de code a priori sans y avoir réfléchi préalablement. Et choisir effectivement un code monétaire va influer fortement l'économie. Donc attention à ça, c'est pas un outil de mesure neutre, c'est pas un outil de mesure uniquement, c'est d'abord et avant tout une valeur économique, c'est une valeur comme les autres, c'est-à-dire que je peux justement faire une transaction monétaire, j'envoie de la monnaie à quelqu'un, contre rien par exemple je lui fais un don, ou je reçois un objet en échange, dans ce cas-là on dit qu'on achète. Mais on peut très bien acheter sans passer par la monnaie, par ailleurs, hein, ça s'appelle faire du troc. Et ça existe aujourd'hui dans l'économie à un niveau extrêmement élevé. Il faut savoir qu'entre les entreprises, énormément d'échanges se font par échange marchandises, on appelle ça, et pas du tout par la monnaie, parce que justement la monnaie n'est pas en quantité absolue, absolument illimitée partout. Elle est limitée, c'est ce qui en partie lui donne sa valeur d'ailleurs. Et donc c'est aussi un objet économique, c'est une valeur économique. C'est certainement pas uniquement un outil de mesure, c'est une erreur conceptuelle qui mène à des raisonnements faux de penser ça. Dire ça, c'est justement ignorer son rôle dans l'économie. C'est justement rentrer dans la dissonance cognitive qui consiste à dire ben, y a des prix, donc si les prix sont mesurés, ils sont tels quels et ça se discute pas. Et non, si je change de valeur économique, j'aurai pas le même champ de valeur. C'est pas vrai. Voilà, donc...
Moi, je le comprends facilement quand je dis qu'on peut donner des nombres monétaires.
Voilà, exactement.
Alors qu'on ne peut pas donner des degrés Celsius.
Voilà, donc autant il faut faire des parallèles, c'est bien, avec d'autres outils de mesure, autant il faut faire attention, il y a une différence drastique ici. Hein. Voilà, il faut quand même bien mettre l'accent là-dessus. Mm-hmm. Très bien. Voilà, donc j'ai fini mon aparté, mais je tenais à le dire. Voilà, voilà donc tu peux continuer sur...
Après, juste une aparté, je ne sais pas trop sur quoi continuer, mais dire que, bon, moi, j'aime beaucoup les débats, et donc je vais voir tous les débats qui parlent de socio-économie à Toulouse. Et du coup, j'ai parlé, et puis j'interviens quand j'ai des choses à dire, évidemment. Hein, je ne parle pas toujours, j'ai pas de posture. Hein, mais bon, dès que je vois que les choses ne sont pas dites, j'interviens. Du coup, mais j'ai discuté avec alors tous les grands économistes, hein. Enfin, les grands, ceux qui sont reconnus comme grands par les banquiers. Je peux faire une liste de tous les économistes. J'étudie tout ce qu'ils font. Hein, Bernard Friot, Philippe Deruder, François Morin, Bernard Maris, quand il était vivant, Yolande Bresson, Bété Travaux. Enfin, bon, toi, t'es pas reconnu par les banquiers, mais... Thomas Piketty, Jacques Attali, voilà. Donc il y en a certains que j'ai pas eu l'occasion d'échanger, avec qui j'ai pas eu l'occasion d'échanger, mais en tout cas, je suis tout à fait friand de ce genre de rapport humain. Et donc j'ai bien compris que tous ces gens, alors pas non, pas tous ces gens-là, mais enfin en tout cas ceux qui sont soutenus, que l'on voit dans les médias, qui sont soutenus, enfin on va dire qu'ils sont reconnus par, par alors justement par ceux qui, par le créateur de monnaie, moi ça des gens ne le savent pas, mais ceux qui nous sont présentés comme étant des experts, et bien tous, je dis bien tous, hein, ignorent complètement, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas ne parle pas, n'élabore pas du tout la notion, enfin la concrète, hein, la monnaie, chez les nombres monétaires. Et donc c'est ce qui fait que je, ben du coup, vu que personne s'en occupe et que quelque part, moi j'appelle ça donc des impostures, hein, économiques, qui elles sont, ont accès à la tribune, aux tribunes. Et bien, vu que ils ont accès et pas moi, mais j'y vais, moi, y a pas de mal à s'exprimer, hein, je suis un non-violent. Et, mais bon, c'est vrai que du coup, je dois lutter pour pouvoir être en reconnu. Et alors, ce qui s'est passé là, récemment, je suis intervenu donc au Havre, à Alternatiba, et il y a un collègue dont j'étudie les travaux depuis donc 2005, hein, c'est Philippe Deruder, qui est venu me voir, parce qu'il intervenait justement à sa conférence, et qui est venu me voir un petit peu embêté. J'avais mon stand, moi, tranquille, monnaie libre, où justement nous avions pour la première fois avec mon collègue du Havre, donc créé une monnaie libre in vivo, en direct, sur place. La monnaie libre locale, enfin une monnaie libre locale, et donc il est venu nous voir, et j'ai compris qu'il était embêté que je sois là. Il m'a demandé quelque part de pas intervenir à sa conférence, comme ce que je fais souvent.
Il t'avait repéré.
Comment ?
Il t'a repéré.
Voilà, il m'a repéré, et donc bon, d'abord il était très content, il m'a dit qu'il était très content de faire ma connaissance, bon ça c'est du savoir-vivre. Mais parce que c'est vrai que sur Facebook, je suis un petit peu virulent, mais bon, juste parce que j'ai pas accès à la tribune, enfin que la monnaie n'a pas accès à la tribune. Moi, je m'en fous que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui en parle, mais il faut en parler. Et donc je lui ai dit que... Alors, il m'a demandé de pas intervenir, enfin, de façon très... sans l'exiger, mais j'ai compris qu'il était très embarrassé. Et donc, devant moi, il y avait justement les deux bouquins que je propose à tout le monde de lire, donc la TRM, et puis le bouquin de Gérard Fouché, hein, pour comprendre l'existant. Hein. Et je lui dis, est-ce que vous avez lu ces bouquins ? Si vous avez peur que j'intervienne, c'est parce que vous n'avez pas lu ces livres. Et il me dit, en effet, je ne les ai pas lus. Alors je lui dis, et pourtant, on vous a sollicité déjà depuis quelque temps, donc je lui ai fait comprendre que je n'interviendrai pas à cette conférence-là, au Havre, mais que, surtout que je l'avais déjà vu deux fois cet été, parce que moi, je lui dis, j'étudie les travaux des autres, mais un économiste qui n'étudie pas les travaux des autres, pour moi, est un imposteur. Donc, je lui dis, attention, voilà, c'est ma façon un peu de parler, mais je lui dis, je ne vais pas intervenir à votre conférence. Par contre, la prochaine, si je m'aperçois que vous n'avez pas lu ces deux livres, que vous ne m'en parlez pas au préalable, que vous n'en parlez pas à votre conférence, je serais obligé d'intervenir, et donc forcément de façon désagréable. Eh bien, écoutez, on s'est serré la main, il a dit entendu, on a pris la photo, il a fait sa conférence, bon, comme d'hab, hein, où il propose une monnaie centralisée par un autre institut que les banques, mais bon, finalement, il ne parle jamais du code d'émission de la monnaie, enfin bon, bref, il n'est pas éveillé du tout à la TRM. Et il m'a avoué qu'il ne connaissait pas et qu'il n'était pas bon en maths. Alors je lui dis que, justement, moi non plus, hein, et qu'on apprend en lisant, on apprend en expérimentant, et on apprend en reconnaissant les autres sans bagage, sans dissonance cognitive. Et donc, voilà, et on s'est quitté comme ça en très bon ami, et j'espère qu'il aura entendu mes conseils, on va dire. Hein.
C'est sûr qu'on n'a pas envie d'avoir un Mathieu Bise énervé sur le plateau, parce que c'est vrai que tu es assez virulent. Alors, si tu veux donc, Mathieu, on va faire une deuxième pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite. Nous voici de retour sur Monnaie Libre après cette deuxième pause musicale. Alors Mathieu, on disait donc que tu étais un peu virulent, mais tu as récemment...
Je voulais juste expliquer un peu pourquoi je suis virulent quand même. Parce que, enfin, après chacun a son caractère, mais moi j'ai grandi donc dans un quartier populaire, hein, des plus pauvres de France. Et donc moi je suis très proche des habitants, je soigne les gens à domicile. Mm. Hein, donc, et je connais aussi des gens très très riches. Bon voilà, avec mon... des parents qui m'ont qui sont on va dire bon fonctionnaires, qui ont pas mal qui ont eu pas mal de monnaie, qui m'ont fait beaucoup voyager. J'ai vécu un an aux États-Unis, j'ai fait toute la Méditerranée, enfin toute la Méditerranée pendant 18 ans en bateau à voile tous les étés. Bon, j'ai beaucoup voyagé et donc je connais aussi des gens très riches, hein. Je connais des millionnaires et je connais des gens très 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 pauvres. Et du coup, j'ai assisté, et je vois bien que ces gens-là sont tous bien, hein, je m'entends bien avec tous ces gens-là, je vois bien qu'ils ont les mêmes, on va dire, les mêmes profondeurs, hein, humanistes et écologistes, on va dire. Mais ce que je vois, c'est que certains meurent jeunes, hein. Moi j'ai perdu 4 amis par balle, et puis certains d'autres, au contraire, ne travaillent plus, puisqu'ils sont rentiers. Donc c'est pas, ils n'ont pas le même rapport à l'économie. Oui. Et donc c'est ça qui me fait que je ne peux pas supporter des impostures. Moi je suis conscient, hein, je crois, beaucoup plus que d'autres, des inégalités, des souffrances justement de l'ignorance, oui, de la monnaie. Et donc je ne peux pas laisser dire que non, que ce n'est pas important, que la monnaie est secondaire, ou qu'on me renvoie à ma forme. Ma forme de mes propos, je supporte pas. Je sais que ces gens-là, eux, ils ont pas vu des gens... une fille se suicider devant moi, hein, là, parce qu'elle souffrait justement de... elle savait pas pourquoi, hein, mais de manque de reconnaissance socio-économique, hein, tout simplement. Ouais. Et donc moi, ça m'a... toute ma vie, hein, ça restera dans ma tête. Et voilà, donc ça explique pourquoi je suis virulent. Voilà.
Oui, c'est lié, bien sûr, à ton expérience directe, hein, oui,
voilà.
tu vois d'ailleurs les deux extrêmes, c'est-à-dire tu vois pas qu'un seul côté, tu vois les deux, et forcément oui, ça parle plus, parce qu'à la limite on peut s'habituer presque à tout, mais quand on voit les deux faces, c'est plus difficile en fait. Ouais. Et alors comment dirais-je, oui, alors donc tu as aussi parti, il nous reste peu de temps quand même, parce qu'on va pas faire une émission d'une heure et demie, on est déjà sur 50 minutes. Mais il nous reste encore 5 minutes. Tu as participé à Alternativa à Toulouse aussi, je crois que c'était une expérience intéressante. Et puis tu vas participer, bien sûr, au 6e rencontre des monnaies libres. Alors est-ce que tu peux nous en parler?
D'abord, Alternativa à Toulouse, c'était une expérience géniale, hein, vraiment. C'est-à-dire que d'abord, c'est un travail de longue haleine. Pendant un an, il a fallu que j'aille à des réunions qui se sont bien passées, où il y a eu un respect, vu que ça marche par village, et que moi je m'occupais du village économie, les autres villages ne pouvaient pas intervenir. Donc ça permettait une sorte d'autonomie bottom-up, hein, montante et non plus descendante comme d'habitude. Ça, c'est quand même important. Si je ne m'étais pas investi, il n'y aurait pas eu de conférence sur la monnaie. Je me suis moi-même occupé d'amener, de payer moi-même hein, deux grandes tentes, les plus grandes du festival, parce que j'ai compris qu'ils ne voulaient pas, enfin les autres ne voulaient pas de débat sur la démocratie ou de débat commun, enfin, sur la démocratie et la monnaie. Donc j'ai dû vraiment payer moi-même les tentes, aller les chercher, les monter, bon, avec quelques bénévoles, et puis développer donc conférence sur conférence. J'en ai fait une de 4 heures debout avec un paperboard, sans micro.
Alors tu m'as raconté une anecdote là-dessus, est-ce que tu pourrais la...
Voilà, alors là ça a été énorme cette anecdote, c'est donc il y avait bref, j'ai fait deux conférences au micro sous la tente, donc c'était déjà aussi très très bien, mais notamment une donc de 4 heures le premier jour hein. Donc on va dire un peu comme un rabatteur dans la rue avec mon paperboard, enfin dans la rue entre les villages hein, dans mon village économie. Et donc là les gens je les alpaguais, je les accrochais à travers mon discours. Et en éducation populaire, hein, c'était pas que unidirectionnel, hein, je posais des questions aux gens. Et là, il y a un vieux monsieur qui avait l'air de réfléchir depuis longtemps aux causes, aux problématiques, à rechercher les causes. Et donc, je le vois au début intervenir en dissonance cognitive sur beaucoup de choses que je disais. Et donc, il était crispé, les gens... Alors justement, quelque part, les gens, ça les intéresse de voir quand il y a une... Comme ça, un débat clair et mais sans violence hein, entre les individus. Mmh. Et alors, ce monsieur, au fur et à mesure de mes explications, justement, on va dire, enlève son bagage idéologique, hein, dogmatique, pour rentrer dans l'éveil de conscience. Et à travers, comme il parlait beaucoup, enfin, il m'écoutait et il répondait, et on voyait à travers son discours que... Et bien lui-même avouait qu'il prenait conscience et donc il disait les choses qu'il percevait avec ses mots, mmh. Il l'a prouvé qu'il comprenait. Et quand à la fin donc de notre échange où il y avait quand même pas mal de gens autour, ce monsieur nous a dit vraiment c'était émouvant, il avait une larme à l'œil, c'était impressionnant, hein, tout le monde l'a ressenti je crois, et bien qu'il venait de comprendre. Il nous l'a dit hein, que quel était le changement à opérer. Il dépendait donc du raisonnement des individus, bien compris la relativité, la monnaie libre. Et donc, il a pris conscience qu'il ne verrait pas le changement global, puisqu'il avait 76 ans, il l'a dit, et qu'il ne le verrait pas de ses yeux, mais que de comprendre quelle était la solution, il avait compris qu'elle était unique, qu'il n'y en avait pas deux, ni zéro, ni trois, ni quatre, et qu'il y en avait une, et qu'elle était immuable, puisqu'elle dépend que de notre raisonnement. Il était soulagé, mais il nous l'a dit que non seulement, bon, que pour lui de ne pas vivre le changement n'était pas important, puisque ça c'était ça dépendait pas de lui, mais que ça dépendait des autres générations, mais de savoir que le changement, quel était le changement opéré, eh bien quelque part, il était enfin libre, enfin, et on va dire, je sais plus comment il disait, enfin, en paix, quoi, en paix avec lui-même. Et qui pouvait du coup finir les quelques années à vivre vraiment pleinement, et que même il a dit en rigolant que quelque part ça l'aiderait à vivre sans doute plus longtemps, ouais. Parce qu'on lui enlevait un poids, il devait passer des jours et des jours à réfléchir à un problème économique sans connaître justement la solution, hein, la TRM, et du coup et que ce poids là lui était enlevé là après 2 heures de conférence auxquelles il avait participé. Et c'était émouvant, quoi, de voir que... Mais on l'a vu même à sa façon de marcher. Je l'ai revu après, je l'ai recroisé. Il m'a fait un petit... avec le pouce en haut, style, tout va bien, quoi. Il était heureux, quoi. Et ça, moi, c'est vraiment le meilleur moment que j'ai passé depuis longtemps, hein.
D'accord, donc... voilà. C'est une belle anecdote, hein. C'est pour ça que je voulais que tu la graves dans Monnaie Libre, comme ça elle existe. Sur le podcast, elle existe aussi ailleurs, bien sûr, puisque elle existe dans ta tête et à qui tu l'as raconté. Et alors, les FMM6 aussi, donc est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, quand ça se passe, tu es au courant, je suppose?
Oui, je suis au courant. Alors moi, j'ai toujours le problème avec les dates. Je sais pas, le 11 novembre.
C'est du 12 au 15.
Le 15, voilà, autour du 15. Donc ça se passe à Valence.
Ouais.
Et donc moi j'ai assisté au Donc c'est les sixièmes, j'ai fait les quatrièmes rencontres internationales, oui. Et les cinquièmes, j'ai fait aussi l'année dernière.
Oui.
Et là, donc vraiment, pour moi, c'est d'ailleurs essentiel. Hein, pour moi, moi qui fonctionne avec justement la parole, l'écoute et la visualisation, pour moi, c'est essentiel que de venir à ces rencontres. Parce que, voilà, pour moi, c'est ça marche. Ça marche beaucoup mieux que tout autre type de travail intellectuel.
Alors, on va juste dire pour les auditeurs, les rencontres des menus, c'est pas que des rencontres, c'est développement logiciel, c'est le projet YouCoin de monnaie libre de pair à pair, P2P, c'est une technologie très avancée. Il y a les développeurs de YouCoin qui viennent, il y a CG, Kinso, je donne leur pseudo parce qu'ils sont trop nombreux, il y a Moule, il y a Smoule, il y en a plein, il y a aussi Kimamila, désolé pour ceux que j'arrive pas à citer parce qu'ils sont plus nombreux cette année que l'an dernier. On a des Allemands qui commencent à venir aussi, on a des Anglais,
on a des Belges.
Belges, exactement, oui. D'ailleurs, on va citer, tiens, aux rencontres numéro 5 l'an dernier. On a eu le plaisir de voir venir Emmanuel Bulteau, qui est un docteur en mathématiques belge et qui a écrit un très beau papier, la TRM en détail. Alors il explique la TRM, alors c'est des maths, donc il y a déjà une partie maths sur la TRM, mais c'est lui à sa sauce à lui, parce que les maths, selon qui les écrit, on les écrit un peu différemment, on les explique un peu différemment. Et comme il est docteur en maths, je vous invite à le lire, la TRM en détail, pour avoir les sources de ce travail qui a été publié par donc Emmanuel Bulteau. Vous les avez sur le site créationmonétaire.info, dans la page de la TRM, ça a été mis aux côtés des travaux de François Jorté, qui est un économiste belge, qui a aussi écrit un résumé mathématique, encore différent, vous voyez qu'on peut écrire en maths de façon vraiment différente à chaque fois, mais c'est très juste, hein, c'est très, très très bien dit, très bien fait, avec des interprétations personnelles très pertinentes et des explications nouvelles aussi, hein, des façons de voir nouvelles. Donc c'est intéressant. Et puis aussi le travail superbe de David Chazalviel, Cuculand, qui a développé la TRM en couleur et la TRM pour les enfants. Deux simulations informatiques à voir, à étudier, à faire connaître, et qui sont vraiment pratiques, faciles d'accès, et qui constituent un très joli travail de développement. On a vu ça au FMM6. Voilà, donc c'est développement informatique, c'est présentation des travaux nouveaux sur la notion de monnaie libre, pour l'explication, pour des outils d'explication, etc. Mais aussi pratique, puisque le développement d'une monnaie libre est en route, et que déjà on utilise des prototypes de monnaie libre qui fonctionnent, et qui demandent quand même à être perfectionnés encore pour atteindre une maturité plus grande, bien entendu. Il faut y travailler en permanence, et il n'y aura jamais de fin à ce travail, il faudra toujours continuer à y travailler. Et évidemment, plus elles sont matures, et plus elles sont utilisables, et plus elles peuvent être utilisées par un nombre de gens de plus en plus, disons, important. Voilà, donc FMM6, effectivement, du 12 au 15 novembre à Valence. Vous tapez 6e rencontre des monnaies libres à Valence sur un moteur de recherche internet. Je ne donne pas de marque. Voilà. Tu as cité tout à l'heure un réseau social non libre.
Oui.
Moi, j'aime pas trop les citer. Je préfère citer des réseaux sociaux libres tels que Diaspora. Vous pouvez aussi donc aller voir sur Diaspora. Ça marche aussi avec des tags comme sur d'autres réseaux libres. Si vous mettez dièse FMM6, vous aurez des posts Diaspora sur l'FMM6. Voilà, donc Mathieu, donc il sera, et j'espère que tu vas proposer une petite conférence, maintenant que tu es rodé et que tu as ta propre explication de la TRM, une petite conférence d'une heure, ça serait pas mal, non? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je suis prêt, hein, vraiment, je vais intervenir là sur Toulouse, aux rencontres du monde du libre, là, enfin, à l'école d'ingénieurs de l'ENSATE, là.
Oui.
Et j'espère qu'ils vont me donner justement un temps à la tribune. Je sais que je vais intervenir au premier festival du commun à Toulouse, là. Alors là, ça tombe bien pour parler de monnaie, la seule monnaie commune, hein. La TRM démontre qu'il n'y en a qu'une qui peut être commune dans l'espace et dans le temps. C'est donc bien une monnaie libre. Et donc je vais intervenir là. Alors moi, je suis vraiment friand. Alors je vais faire une radio aussi de 2 heures.
Oui.
Prochaine sur une radio qui s'appelle Information.
Oui.
Et là vraiment, donc je m'aperçois qu'il faut que j'écrive justement une présentation de ce que je propose.
Oui. Hein.
Et donc je suis à fond là, vraiment c'est super. Je bon, il va falloir quand même que je me remette à travailler, parce que si, quand même, un truc important, c'est que pour comprendre tout ça, il faut avoir du temps libre, quand même.
Oui.
Et donc, j'ai eu du temps libre pendant 2 ans, là, et bon, mais là, maintenant, j'ai plus de monnaie, j'ai plus de monnaie d'être, et donc, il faut que je me remette quand même à travailler à mi-temps pour retrouver, pour pouvoir payer mon loyer et tout ça.
Oui, parce qu'il n'y a pas encore de monnaie libre suffisamment importante hein, pour passer à autre chose.
Il faut... Alors, juste, je voulais intervenir aussi sur... On n'en a pas parlé du jeu Géconomicus.
Bien sûr. Le jeu Géconomicus, donc, qui est un fork hein, libre du jeu La Corbeille, qu'on a utilisé au départ, mais dont on a changé les règles. On l'a fait évoluer, puisqu'on joue sur 80 ans. Il y a aussi d'autres modifications du jeu qui vont venir plus tard. Mais bon, pour l'instant, il faut laisser le temps aux joueurs de commencer à apprendre à jouer ce jeu. C'est un jeu qui ressemble au Monopoly aussi. Hein. C'est un jeu qui ressemble, c'est très simple. On échange des valeurs économiques, simplement selon le rôle de le code de la monnaie qu'on utilise. Et bien, les résultats sont pas pareils, voilà, tout simplement.
C'est un jeu extraordinaire. Nous y avons joué avec Carole Fabre lors du. C'était donc l'université d'été des Amis de la Vie, oui. Un journal progressiste catholique qui nous avait déjà vu au Forum Social Mondial de Tunis,
oui.
Avec Gérard Fouché faire donc conférence et jeu Géconomicus.
Oui.
Donc la rédactrice en chef du journal, enfin une co-rédactrice, nous vraiment avait tout compris. Elle n'avait pas participé au jeu, juste en le suivant avec son ordinateur devant nous. Ah, elle avait été transcendée, elle a dit je vais vous faire venir. Et donc nous sommes allés avec Carole, on a fait le jeu, donc on a fait le jeu pour la monnaie dette et pour la monnaie en dividende universelle, hein, la monnaie libre. Et là, vraiment ça marche très très bien parce que les gens comprennent par eux-mêmes. Et ça c'est fondamental, ça permet après d'avoir, de faire des conférences, on va dire des échanges en tout cas, beaucoup plus... on va dire profonde et sans dissonance cognitive là, puisque justement le bagage il a été enlevé pendant les jeux, quoi, enfin à la fin des jeux.
Alors justement, alors
par rapport, superbe, très 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 bonne expérience à développer.
Oui.
Bon, qui demande par contre mais 3 heures de temps, hein, 2 fois 1 heure, au moins 3 heures de temps.
Oui. Oui. Oui, il faut du temps parce que si on veut que ça ait quand même une dimension économique, il faut quand même qu'on soit au moins 10 joueurs. Et bon, ben, faire jouer 10 joueurs ensemble, quel que soit le jeu d'ailleurs, hein, même si on faisait un petit tournoi d'échecs, un petit tournoi de belote ou n'importe quoi, dès qu'il commençait à y avoir du monde, c'est plus long. Donc il faut savoir qu'effectivement il faut du temps, il faut au moins 3 heures, parce que il faut jouer 2 fois, parce que sinon le jeu n'a pas de sens. Il faut jouer au moins 2 fois, puisqu'il faut voir comment le rôle de la monnaie qu'on utilise. Alors, selon qu'on va utiliser une monnaie qui se crée d'une façon ou qui se crée d'une autre façon, alors on teste monnaie dette ou monnaie libre, ça suffit pour faire l'écart. On pourrait tester d'autres types de monnaie, mais il faudrait les mettre au point. Après, bon, mais c'est aux joueurs aussi à faire cet effort. Hein. Chacun doit pouvoir jouer à ce jeu, il est libre, hein, donc il n'y a pas de problème. Et donc, selon le type de monnaie qu'on utilise, bien sûr, les résultats, on voit nettement hein, que les différences sont notables. Alors, ce que je voulais dire, Mathieu, un point important pour finir, ça fera une belle émission, hein, je crois qu'on va atteindre 1h15. Donc, tous ces travaux, tu parlais donc du jeu Géconomicus, tu as parlé de tes conférences, tu sais très bien que tu retournes au monde libre, là, ici à Toulouse aussi, c'est très important de solliciter l'intellect des informaticiens, parce que c'est les seuls qui peuvent véritablement mettre la main à la pâte sur ce sujet-là. Il faut rappeler que la monnaie, c'est avant tout des nombres, et il n'y a rien de mieux pour traiter des nombres que l'informatique, par définition. Parce que l'informatique, c'est finalement la science de la manipulation des nombres, hein, puisque je vous rappelle que c'est des 0 et des 1, essentiellement. Et donc, tous ces éléments-là, évidemment, on aurait envie de les voir en vidéo. Alors, est-ce que ça va être publié? Est-ce que tu as un blog où tu publies tes émissions de radio, tes vidéos, tes textes éventuellement, tes conférences, de façon à ce qu'on puisse en profiter, que plutôt que de toucher, disons, 100 personnes ou 200 personnes, oui, quand tu fais un événement, tu pourrais en toucher peut-être plusieurs milliers?
Eh bien, c'est la bonne, très bonne question pour finir, hein. C'est qu'en fait, j'ai tout en stock. J'ai plein de films, j'ai filmé 3 jeux de la corbeille en entier. Les radios, ben, ça commence, hein, j'espère. Donc ça, j'ai pas encore du stock, mais j'ai des films, j'ai le Forum Social Mondial de Tunis, j'ai monté un film que je n'ai toujours pas mis, pour l'instant j'ai rien mis, j'ai mon blog, Je l'ai ouvert, mais je l'ai rien mis dedans. Donc c'est juste, ben voilà, c'est mon projet d'ailleurs exactement de cette année.
Hein. Ah ben écoute, on attend avec impatience, voilà. Impatience de découvrir ses contributions parce que je pense que c'est très riche, c'est sans doute extrêmement précieux à découvrir, à lire, à étudier et que effectivement il faudrait pas que tu tardes pour les publier parce que dans un carton elles aident oui. pas alors que si elles étaient sur internet elles aideraient peut-être beaucoup de gens à découvrir ce sujet, à le comprendre et puis après à faire leur choix parce qu'après bon bien sûr c'est pas parce qu'on a compris quelque chose qu'on y adhère, on peut aussi le comprendre et pour des raisons qu'on ignore mais on pourrait décider de ne pas les adopter mais en tout cas voilà on peut pas faire de choix si on ne connaît pas et donc voilà ben, c'est un très beau projet, j'espère que tu vas y arriver rapidement.
Et oui, mais ça dépend que de moi. Donc, et puis là, vraiment, c'est tout le monde autour de moi me dit la même chose. Donc, c'est maintenant. Bon, il faut juste que j'ai accès à Internet chez moi, hein, parce qu'on me l'a coupé depuis 3 mois. Et comme ça demande quand même du uploading, là, assez long, mais je suis un peu limité. Voilà, avec la 3G, ça marche pas. Voilà, mais bon, ça c'est purement technique. Il y a un fournisseur d'accès Internet associatif qui va me permettre sans doute d'avoir accès bientôt là à Internet pour pouvoir enfin balancer sur la toile tout ce que j'ai en stock. Hein.
D'accord. Voilà. Mais espérons que ça ne tarde pas trop. Merci beaucoup à toi, Mathieu.
Hein. Merci à toi, vraiment.
Pour cette émission, donc Monnaie Libre, donc parcours d'un combattant, hein, je crois que je vais l'appeler comme ça, cet épisode.
Ah oui, wow, moi je suis non-violent. Hein.
Alors tu mettrais ça comment? Alors parcours, tout court.
Parcours d'un activisme. Activisme, je préfère activiste.
Un activiste, ouais, je vais pas mettre activiste parce que j'aime pas le terme, ça fait syndicaliste.
Bon, mais
je mettrais parcours, voilà. Parcours d'un homme. Donc voilà, merci à toi Mathieu. Merci donc de nous avoir suivis sur cette émission Monnaie Libre, vous voyez, donc 1h presque 10. Longue émission, mais je crois que ça valait le coup. Hein. Mathieu nous a quand même donné un bel aperçu de son parcours, de ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Il est très actif. Suivez-le. Il est sur des réseaux sociaux non libres pour l'instant, mais il va peut-être le faire bientôt sur des réseaux libres aussi. Et puis peut-être bientôt le blog, le blog de Mathieu, qui lui donc permettra à chacun de voir sa production. Voilà. Donc je vous laisse je vous dis au revoir pour le prochain épisode de Monnaie Libre. Et je vous laisse donc avec notre générique fétiche sur Monnaie Libre. No More Dreams. Au revoir.